Info Club Sandwich.
Votre rendez-vous d'actualité locale, associative et culturelle.
Sur Radio Campus Amiens.
Vous êtes bien sur 87.7 FM Radio Campus Amiens et vous écoutez Info Club Sandwich. Aujourd'hui, nous allons parler de la création contemporaine avec Jean-Louis Estagné, directeur de la Maison du Théâtre. Bonjour.
Bonjour.
Alors après cet épisode de crise sanitaire sans précédent, comment se porte la création contemporaine aujourd'hui ?
Évidemment, forcément, c'est un peu double. C'est sûr que ça a mis en péril beaucoup de créations, ça les a retardés, etc. Donc il y a aussi une sorte d'embouteillage. Par exemple, dans notre saison, on a beaucoup de reports de la saison précédente, étant donné qu'on programme beaucoup de créations, c'est-à-dire de spectacles qui sont programmés avant qu'on les ait vus, avant qu'ils soient créés. Donc et souvent des jeunes artistes, etc. C'est un peu notre ligne artistique. On ne peut pas ne pas reprendre les spectacles, on est obligé de les reporter. Donc voilà, ça c'est général. Ensuite, il y a pas mal de solidarité, je trouve, qui s'est exprimée. Je trouve que, bon, peut-être certains artistes à certains endroits auraient un point de vue différent. C'est fort possible, mais quand même, je trouve qu'il y a pas mal de solidarité. Il y a des plans d'aide qui ont été mis en place par l'État, les collectivités, la région, la DRAC, le département. Nous, on a essayé évidemment de... Alors ça ne compense pas la création. Hein, c'est juste des manières de tenir, mais ça ne compense pas le fait que le spectacle soit créé et puis qu'il tourne. Nous, on a essayé d'accompagner les artistes, de payer tout ce qu'on pouvait, enfin d'être le plus réglo possible, comme la plupart de nos collègues, enfin en tout cas que je connais. Voilà, mais c'est cette ambiguïté, oui, c'est à la fois, ça exprimait une solidarité, l'importance de la création, du spectacle vivant, et puis évidemment il y a eu ces difficultés. Je connais beaucoup de gens pour qui ça a porté un coup très important, ou même fatal par rapport à leur travail. Même des artistes, je pense à des gens qui ont fait des carrières incroyables, qui sont des grands professionnels. Je ne parle même pas de gens qui démarrent, hein, et qui étaient sur une façon de fonctionner à un certain âge et tout, et les projets sont tombés. Et ils ont perdu le statut. Et puis, voilà, enfin, ça a eu beaucoup de conséquences extrêmement, extrêmement négatives aussi, bien sûr.
Alors, vous, votre nouvelle saison à la Maison du Théâtre est justement le reflet des enjeux de notre époque, à savoir la place de la femme, le rapport au corps, la question des inégalités sociales, ou encore la difficulté de se projeter dans le futur. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des différents spectacles qui évoque tout ça?
Oui, bien sûr. Et je peux vous dire aussi que, en fait, notre angle d'attaque, il est, ce que vous dites, hein, je me reconnais complètement, en même temps, il est un peu décalé, enfin, on le prend un peu différemment. C'est-à-dire, pour moi, ce qui me frappe, c'est deux choses. C'est-à-dire, premièrement, le fait qu'on est dans une époque où il y a un changement de valeur. C'est-à-dire que c'est moins la question directe, sociale, sociologique, même si évidemment on rentre par là, ou les questions politiques, les inégalités sociales directement, ou la justice et l'injustice, mais c'est les questions des changements de valeurs. Donc évidemment, ça touche aux questions que vous dites, mais par exemple, pour moi, c'est la question de la conscience qu'on a de vivre dans le même monde. Donc, par exemple, quand on parle des étrangers, on a deux spectacles là-dessus cette saison, c'est cette conscience qui grandit de vivre dans le même monde, ce qui produit évidemment aussi beaucoup de réactions xénophobes ou de peur. Enfin, ça, c'est toujours contradictoire, hein, les avancées ou les évolutions de la conscience collective. Donc on a un spectacle qui s'appelle « Je suis perdu » la semaine prochaine, qui note nos rapports, c'est le mardi prochain, mais le 28, qui montre nos rapports à l'étranger, et avec beaucoup de finesse en fait. Avec un artiste, Guillermo Pisani, qui est sociologue, qui est un grand dramaturge, qui enseigne la dramaturgie dans plusieurs universités, qu'il a enseigné à Amiens aussi également. Et donc là, qui écrit des trois pièces jouées par trois acteurs. Les trois pièces sont jouées par les trois mêmes acteurs. Et c'est des manières différentes de rentrer dans ce rapport à l'étranger. Et ça interroge donc nos questions d'identité, mais pas d'un point de vue politique, si vous voulez, d'un point de vue intime et sociologique, d'une certaine manière. Et puis, on a une pièce qui va être remarquable, enfin, je l'espère, parce qu'on ne l'a pas encore vue, puisqu'elle va être créée. Ça s'appelle « Le dernier voyage ». Et ça raconte l'épopée de l'Aquarius. Vous vous souvenez de cette histoire de ce bateau qui ne trouvait pas d'endroit où accoster. C'est en janvier. Voilà. Donc, et là, ça raconte ce qui commence à se passer sur le bateau. Parce que ce bateau, on imagine, on voit le truc, mais non, c'est un bateau qui était fait pour une centaine de personnes, il y avait 400 personnes, ils n'avaient pas assez à manger, ils étaient dans une mer déchaînée. Voilà, c'est ça le concret en même temps. Donc, puis la façon dont ça s'est géré, etc. Donc, on prend conscience du fait que c'est pas... Est-ce que c'est eux ou est-ce que c'est nous, en fait ? Et dans cette conscience qu'on a du monde d'aujourd'hui, mondialisé, mais pas juste dans son point de vue économique et tout, etc. Non, non, mondialisé dans notre conscience, dans notre esprit. Il y a la question du féminisme aussi qui est très fort. C'est-à-dire qu'on a vu ces dernières mois, dans le monde occidental et une partie aussi du monde, mais loin d'être le monde entier, une conscience féministe collective se développer, avec des jeunes générations, des jeunes gens, des jeunes filles, etc., des femmes jeunes ou des jeunes filles, etc., qui parlaient différemment et qui juste employaient d'autres mots, d'autres manières de dire pour les mêmes réalités. Et même des choses qui étaient parfois complètement... Dans notre façon de vivre intégrée, je pense par exemple de ce qu'on a, disons, le harcèlement de rue par exemple et tout ça, ou certains comportements dans le boulot et tout, juste une manière de les poser différemment. Donc ça, c'est un endroit où les valeurs sont en train de changer. C'est-à-dire que des hommes aussi disent, pour moi, ce qui est important. Et pas parce que je pense à ma fille, ou comme on disait avant, je pense à ma femme, ou oui, bien sûr, ma mère, ma fille et tout. Non, moi, dans mon identité, comment moi, dans mon identité, je me reconnais, voilà. Donc, c'était que dans le monde occidental et tout ça, on est d'accord. Mais c'est quand même très important. Donc là, on a, je dirais, pas mal de spectacles là-dessus, sur cette question. Il y a le...
J'avais vu les femmes de barbe bleue.
Les femmes de barbe bleue, voilà, qui est un super spectacle. Alors, très jeunes artistes, et forcément, comme on travaille sur les changements de valeurs, forcément, majoritairement, les artistes qui jouent chez nous, pas tous, hein, parce qu'on ne fait pas des quotas, mais majoritairement sont très jeunes. Ils sont au début, mais c'est des gens. Enfin, c'est vraiment des gens qu'on suit quand même et tout ça. Enfin, c'est pas juste parce qu'ils sont jeunes qu'on va les prendre. Ouais, c'est pas du tout ça. Y a beaucoup de femmes aussi pour les raisons là qui sont évidentes. Il y a les roses blanches sur les violences domestiques, les violences faites aux femmes, qui est un spectacle très fort. Les femmes de barbe bleue aussi, barbe bleue, hein, forcément, ça parle de ça. D'une certaine manière. Il y a Isadora, comme elle est belle quand elle se promène, c'est au mois de décembre, c'est une sorte de grand poème musical sur une femme qui se promène en ville et elle rencontre des animaux. C'est le chaperon rouge, en fait. Hein. Voilà. Elle rencontre des loups, elle rencontre des pingouins, elle rencontre des lapins, etc.
C'est un peu plus trash que le Chaperon Rouge, par contre.
C'est pas trash, c'est très poétique, très poétique. Mais c'est plus trash, évidemment, au sens que... Mais dans le Chaperon Rouge, les sous-entendus sont quand même...
Bien sûr.
Voilà, il faut pas beaucoup de recherches pour les sortir, quoi. Au mois de mars, on a Ayone toute partie, qui parle de... Pour parler des spectacles, qui parle des femmes, du féminisme, etc. Il y en est toute partie. Alors, ça résonnait. C'était écrit bien avant. On avait choisi le programme bien avant et tout ça. Ça a été reporté à cause de la Covid. Vous vous rappelez, au moment de l'histoire, au moment des Césars, l'histoire Polanski et tout, on se casse. Comment ça s'appelle, Adèle... comédienne de cinéma, ouais. Adèle, je ne sais plus son nom maintenant, qui dit ça, et donc c'est un peu ça. Et donc c'est, on voit des femmes dans plein d'endroits, alors c'est très urbain, c'est un peu, voilà, des gens qui travaillent, des femmes qui s'en vont, et elles s'en vont, et elles se retrouvent, et là ça devient complètement une autre histoire, ça devient métaphorique et fantastique, elles se retrouvent dans dans un endroit, je sais pas, on dirait espèce de comme en Australie, au milieu de l'Australie, un truc comme ça, complètement incroyable comme paysage. Et il y a des femmes qui arrivent du monde entier qui se retrouvent là, en fait. Et alors, donc, ça commence comme très réaliste et ça finit comme une sorte de parabole très très belle. Sur, on parle d'écoféminisme aussi, de rapport entre. Dans notre façon de penser et dans notre idéologie, bien sûr, pas du tout en réalité forcément, mais dans notre façon de penser, cette manière d'identifier les femmes et la nature. Et puis donc c'est deux endroits où notre conscience est en train de changer, le rapport de la civilisation à la nature, et puis évidemment la place des femmes dans notre monde. Donc ça parle de ça de façon très poétique. Il y a le rapport au corps aussi, ça c'est très important, le rapport à la santé, qui a été accentué évidemment par la crise sanitaire. Ça a mis en avant un certain nombre de choses, mais ça a existé, et ça m'a frappé parce que je l'ai découvert. En fait, c'est souvent à travers les créations à venir que je découvre les trucs. Après, quand elles apparaissent sur le plateau, c'est deux ans et demi après. Donc, déjà, la société a bougé. Mais au moment où on le voit apparaître, c'est beaucoup moins présent. Et c'était le cas de harcèlement de rue, par exemple. Et c'est le cas de ce rapport au corps et à la santé. Maintenant, c'est très, beaucoup plus présent dans notre conscience, et heureusement. Donc notre corps, il est, si vous voulez, il y a plein de choses très, très contradictoires. Notre corps, il est presque, quelque part, il est collectivisé. Il y a un système santé sociale extrêmement organisé, même il y a beaucoup de manque et de crédit et tout, mais il est quand même super bien organisé. Et donc... Notre corps, il est dans un système. Par exemple, avant, on ne faisait don d'un organe pour des greffes. Maintenant, de fait, si on ne dit pas qu'on est opposé, eh bien, notre corps sera... Des transplantations pourront être faites avec nos organes, comme si notre corps, il était, c'est un peu exagéré, mais collectivisé. Et puis, il y a des inquiétudes et des prises de conscience. Regardons, alors on a un spectacle sur l'épidémie du sida, Alzheimer, et ça a été écrit en plein épisode sida par un auteur extrêmement connu, extrêmement important, qui d'ailleurs travaille beaucoup à Amiens, qui s'appelle Denis Lachaud, et il a écrit une pièce qui... parle de ces deux épidémies. Bon, Alzheimer, ce n'est pas une épidémie, mais au moment où il a écrit la pièce, c'était en pleine épidémie du sida, et c'était exactement le moment, ça fait maintenant une vingtaine d'années, où on parlait on commençait à parler d'Alzheimer. Et donc, il parle de ce rapport à la santé, à la mort, qui était... en train à ce moment-là de nous percuter complètement dans cette génération. Mmh. Maintenant, aujourd'hui, cette pièce qui n'avait pas été jouée à l'époque, parce que peut-être les gens trouvaient que ce n'était pas un sujet dont on pouvait parler et tout ça aisément, elle a été créée 20 ans après, ou je ne sais plus si c'est 20 ans, mais enfin c'est de cet ordre-là. Et donc là, elle résonne en nous, incroyable, sans compter. Évidemment, on ne peut pas parler de sida sans voir que c'était une maladie qui a décimé les milieux homosexuels et donc sans voir notre rapport à l'homosexualité aussi. C'est très fort. Mmh. Voilà. Et je peux vous parler d'une autre pièce sur ce sujet si j'ai le temps.
Ouais.
Il y a une autre pièce qui nous a beaucoup frappé et qui est au mois de mars, qui s'appelle Apnée. Mmh. Et ça, c'est une comédienne... C'est connu, qui travaille beaucoup, qui fait beaucoup de lectures à France Culture, qui joue dans une bonne quantité de pièces, avec beaucoup de compagnies régionales et autres, elle a écrit cette pièce parce qu'elle a un enfant qui, très jeune, a eu une très grave malformation au poumon. Et donc, c'est d'un poids terrible et... avec un handicap au début, après aussi très important, voilà, et une inquiétude continuelle. Et donc, quand j'ai vu passer cette pièce, ce projet, bon, je me suis dit, ça ne me paraissait pas être un sujet, quoi. Et puis, enfin, un sujet, ouais, en soi, mais de pièce, je me suis dit, voilà, c'est... Et donc, en fait, j'étais aussi victime de ce rapport, cette prévention, comme ça, sur les questions de santé, et cette précaution pour en parler, pour programmer. Puis, on a discuté, et avec tout ce qu'elle disait, je me suis dit, non, là, c'est vraiment quelque chose qui concerne absolument tout le monde. Absolument tout le monde. Elle a écrit une pièce qui est basée sur son journal pendant 20 ans, pendant la durée... Enfin, et je passe sur les détails, mais à ce moment-là, on voit le rapport que nous avons avec le système médical. Mmh. Et à ce moment-là, alors là, encore une fois, nos contacts étaient avant la pandémie, et après la pandémie...
Ouais.
C'est évident, ouais. C'est évident, évident, évident. Et à ce moment-là, ça concerne énormément de gens. Et je me suis aperçu, par exemple, on va faire une rencontre autour de ces sujets-là. Je me suis aperçu que dans les milieux médicaux, à l'université, à la fac de médecine, comme on dit, en philo, etc., il y avait quantité de gens qui travaillaient là-dessus. Et que c'était très important de former les étudiants, les futurs médecins. Donc, on a eu des conversations absolument incroyables et passionnantes avec des profs de médecine ou des infirmières qui travaillaient en école d'infirmières sur toutes les questions éthiques et de rapport à l'autre qui se posent dans la santé. Mmh. Et ça, la crise sanitaire encore l'a révélé, n'est-ce pas, les EHPAD et tout ça.
Et justement, vous l'évoquiez, la plupart des spectacles s'accompagnent de rencontres,
oui,
et de débats. Est-ce que justement, il y en a qu'il ne faut absolument pas rater?
On aura une rencontre avec... le soir de la présentation de Ma forêt fantôme sur la pièce de Denis Lachaud qui aura lieu le 12 octobre. Il y aura une rencontre avec Denis Lachaud. Je pense que ça va être intéressant parce qu'il est très investi, Denis Lachaud. Il est très militant aussi. Hein. Mmh. C'est pas juste qu'il a écrit une pièce comme ça. C'est, voilà. Il y a eu le 120 battements hein, par minute, ce film. C'est pas ça, mais disons, c'est un témoin de l'époque. On a des conférences gesticulées avec, ouais, avec la boîte Sans Projet. Donc, on en a une, justement, autour de Ma forêt fantôme. Donc, c'est des conférences où c'est quelqu'un qui, par une forme théâtrale, témoigne de son expérience. Donc c'est amateur, hein, d'une certaine manière. Mais alors c'est des vrais, c'est des témoignages de gens. et après évidemment c'est un sujet, c'est une bonne manière d'ouvrir le débat avec des gens qui sont pas des universitaires, etc. Enfin, qui connaissent pas mal le sujet dont ils parlent, puisque non seulement ils l'ont vécu, mais en plus donc voilà. Donc il y a la veuve joyeuse sur le deuil et sur la perte, etc., qui aura lieu le 1er octobre avec Florence Bavard. Et le 25 mars, autour de la pièce dont j'ai parlé, et on est toutes parties, il y aura une conférence gesticulée d'Hélène Le Sueur. C'est sur comment j'ai découvert où se situe le patriarcat dans ma vie, ou l'importance d'avoir une chambre à soi. Parce que c'est ça que ça veut dire aussi. On se casse, ça veut dire, bon, ok, ça ne va pas dire on se casse simplement, ça veut dire on construit un espace de vie, d'existence, comme la chambre à soi, qui est à nous, voilà. Puisque, voilà, vous savez mieux que moi peut-être comment ça se passe. Je vois chez nous, par exemple, je vois... voilà, moi, toute ma vie, j'avais un bureau parce que j'avais besoin de travailler. Mon épouse, pendant des décennies, elle n'en avait pas. Et son bureau, c'était la cuisine, c'était ça. Et donc, moi, ça me paraissait sincèrement complètement normal. Enfin, elle aussi, d'ailleurs, hein, il n'y avait pas du tout de conflit là-dessus. Mais avec le recul, on regarde les choses différemment.
Oui, bien sûr. Eh bien, une saison encore riche, hein, j'ai envie de dire. Il y a matière à réflexion, en tout cas. Et ça, ça fait plaisir. Donc, vous pourrez retrouver le détail de la saison sur le site amiens.fr/maison-du-théâtre. Merci d'être venu parler de cette saison au micro de Radio Campus Amiens.
Merci beaucoup.
On vous retrouvera de toute façon tout au long de l'année pour nous parler un peu des temps forts que nous réserve la Maison du Théâtre. Je rappelle que Festitude, le festival dédié aux étudiants organisé par le CROUS et l'UPJV, se poursuit jusqu'au 7 octobre. Notez dans vos tablettes l'Escape Game de vendredi prochain de 9h à 19h dans la salle Expo de la Citadelle. Retrouvez l'ensemble du programme sur la page Facebook de Festitude. Nous, on se retrouve demain, midi 18h. On se quitte avec Où va le monde de la femme. Tchuss.
Le monde, pourquoi des fois je me demande si les filles et les garçons sont si cruels, où sont mes vrais amis, pourquoi je me méfie, qu'a-t-on pu bien faire de tous ces sacrifices, oui personne n'est fidèle, mais pourtant la vie doit rester toujours belle, et peu importe si l'homme reste si cruel, avec ce qu'il est, il faut sans doute pardonner, mettre son ego de côté, pourquoi tout le monde se ment et se trompe jusqu'à se traîner dans la misère la plus totale. Donner ma confiance et mon cœur, pourquoi ça me fait si peur? Est-ce bien normal? Non, ce n'est pas normal. Je n'ai plus l'estime pour toi, tant pis pour ça, tant pis pour ça. Je continue mon chemin, tu es déjà très très loin derrière moi, très loin derrière moi. Oui c'était une belle histoire, pour finalement taire mon regard foudroyé, sans me retourner. Je pars comme je suis venu, encore plus déçu. Et le pire dans tout ça, c'est que je reste un inconnu pour toi. Par pitié, arrêtez de me planter des couteaux dans le dos. Mon corps va finir par devenir un filet de cicatrices qui ne retiendra en moi que les mauvais côtés de toi. Désormais je n'en peux plus, je veux partir très très loin. Je pleure et je renie, c'est la larme de trop qui fait déborder mes yeux et m'a rendu malheureux. Mais où va le monde? Où va le monde? mais où va le monde? Pourquoi chaque fois que je veux bien faire les choses, ir toujours de travers? Pourquoi les gens se mentent? Pourquoi les gens se trompent? Est-ce que toi aussi, des fois, tu te demandes pourquoi la vie est si compliquée? Surtout quand deux personnes s'aiment et qu'ils semblent être bien ensemble. Ça paraît si facile, alors comment ça se fait qu'à chaque fois ça finit en pleurs? Je n'en peux plus des histoires futiles, je n'en peux plus de tous ces bourreaux et de toutes ces victimes. L'homme se contredit à longueur de journée, il ne sait pas ce qu'il veut, c'est pour ça qu'on se fait du mal. Est-ce bien normal? Il y a des questions où je sais que je ne trouverai jamais la réponse. Il y a des choses auxquelles on ne peut rien faire, il faut sans doute s'en moquer, passer à travers.